VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin avec vous, en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Moïse Katumbi, l'opposant congolais en exil, a lancé son parti politique depuis l'Afrique du Sud. En Guinée, l'opposition avait appelé à une nouvelle journée ville morte à Conakry. Une journée ville morte également au Tchad, mais très peu suivie. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson termine sa tournée africaine. Il s'est rendu au Nigeria et au Tchad.
L'inscription du Tchad sur cette liste est une injustice faite au Tchad, surtout par rapport à son engagement et à son effort dans la lutte contre le terrorisme.
En Côte d'Ivoire, le PDCI veut présenter son propre candidat pour la présidentielle de 2020.
C'est que le PDCI demande à son allié du RDR, membre du RHDP, de lui retourner l'ascenseur pour 2020.
Aux États-Unis, Donald Trump dévoile son plan d'action pour prévenir les fusillades en milieu scolaire. Et dans la Minute Éco, 4 milliards de francs CFA destinés à promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Burkina. Et le trophée mondial de la FIFA exposé au Grand Théâtre de Dakar dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. En Afrique du Sud, Moïse Katumbi, l'opposant congolais en exil, a lancé son parti politique Ensemble pour le changement en vue des élections générales prévues le 23 décembre 2018. L'opposant a pris la parole à la mi-journée face à ses militants où il a déclaré que nous livrerons la bataille de l'alternance et nous la gagnerons, sans indiquer s'il comptait rentrer dans son pays et à quelle date. En République démocratique du Congo, les populations de l'Ituri ont lancé un appel à l'aide humanitaire en faveur de centaines de milliers de déplacés. La région est touchée par des violences dues à un conflit foncier entre les communautés Lindou, agriculteurs, et Emma, éleveurs. Selon la communauté itourienne de Kinshasa, les chiffres disponibles font état de plus de 350 000 déplacés internes. À ce chiffre s'ajoutent près de 65 000 personnes réfugiées en Ouganda, selon un décompte provisoire. En Guinée, manifestation ce lundi à Conakry pour réclamer la fin du conflit dans l'enseignement, alors que l'opposition a appelé à une journée ville morte pour protester contre les résultats des élections locales. Nathalie Barge.
Des milliers de personnes ont réclamé la réouverture des écoles fermées depuis le 12 février en raison de la grève des enseignants. Des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le palais présidentiel, reprochant au président Alpha Condé de n'avoir pas trouvé de réponse aux revendications des grévistes. À ce conflit dans l'enseignement s'ajoutent les protestations de l'UFDG qui a appelé à une journée ville morte pour contester la victoire du parti au pouvoir lors des élections locales. Des jeunes munis de bâtons sur le boulevard Le Prince ont forcé les gens à rentrer chez eux. Des pneus ont été brûlés et des barricades érigées dans les quartiers Boulbinet et Sandervalia. Le 7 mars, des milliers de femmes habillées en blanc ont manifesté pour dénoncer les violences policières, poussant le président Condé à promettre un grand remaniement ministériel.
Une journée ville morte également, mais qui n'a pas été suivie au Tchad, à N'Djamena, à l'appel de la société civile et de l'opposition. Seule la grève du secteur public continue, avec des écoles fermées, des hôpitaux assurant un service minimum. Cette mobilisation vient en soutien des fonctionnaires en grève depuis plus d'un mois, parce que leurs salaires ont été réduits. Et la ville morte intervient en pleine visite du secrétaire d'État américain Rex Tillerson, qui s'est entretenu avec le président Idriss Déby Itno pour notamment parler de lutte contre le terrorisme. On y reviendra dans la partie magazine. Après le Tchad, le Nigeria, dernière étape donc de sa tournée africaine, le secrétaire d'État américain est arrivé à Abuja. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
L'étape tchadienne du secrétaire d'État américain Rex Tillerson n'a duré que quelques heures. De l'aéroport, il s'est rendu directement à la présidence pour rencontrer le président Idriss Déby Itno. Le président Déby a plaidé pour une solution politique à la crise libyenne, source, d'après lui, des nombreuses armes qui circulent dans le Sahel entre les mains des djihadistes. Dans une conférence de presse conjointe avec son homologue tchadien, Mahamat Zen Sherif, Rex Tillerson a assuré les autorités tchadiennes sur la tenue de discussions en vue de lever la mesure qui interdit aux ressortissants tchadiens d'entrer aux États-Unis. Après le Tchad, le secrétaire d'État américain a mis le cap sur Abuja, au Nigeria. Lors de sa visite de 4 heures, il a rencontré le président Muhammadu Buhari. M. Tillerson, qui a entamé mercredi sa première tournée en Afrique, en Éthiopie, a écourté son séjour africain d'un jour. Il revient demain mardi à Washington pour des réunions urgentes, d'après le sous-secrétaire d'État Steve Goldstein.
En Sierra Leone, les deux principaux candidats à l'élection présidentielle de mercredi sont au coude à coude sur la base du dépouillement des trois quarts des bulletins de vote. Julius Maada Bio, le candidat du Parti du Peuple de Sierra Leone, a pris une très courte avance avec 43,3% sur l'ex-ministre des Affaires étrangères Samora Camara qui a 42,6%. 15 000 voix seulement les séparent. Ces résultats, s'ils se confirment, indiquent qu'il y aura un second tour. Au Niger, un journaliste condamné en première instance à 2 ans de prison ferme pour usage de faux, le journaliste Baba Alpha, a vu sa condamnation ramenée à 1 an ferme et 1 an avec sursis. Le point avec Abdulrazak Idrissa N'Djamena.
C'est en principe au début du mois d'avril prochain que le journaliste de la chaîne de télévision privée Bonferey, Baba Alpha et son père sortiront de prison. Les 2 années fermes auxquelles ils ont été condamnés sont ramenées à 1 an ferme et 1 an avec sursis par les 3 juges de la cour d'appel de Niamey. La dégradation pour 10 années des droits civils et politiques prononcée à l'encontre de Baba Alpha tombe de fait, estime son avocat Maître Hassan Oumarou.
Du moment où la cour annule le premier juge, et il n'a pas statué sur la dégradation civile. On considère que Baba Alpha n'est plus condamné, donc il retrouve ses droits civiques.
La cour d'appel de Niamey a par ailleurs demandé la confiscation à Baba Alpha de sa carte d'identité, de son certificat de nationalité et de son passeport. Il s'agit des pièces d'état civil que le journaliste se serait fait établir sur la base du faux, raison pour laquelle il a été interpellé en avril 2017. Abdulrazak Idrissa, Niamey.
Le président du Sénégal, Macky Sall, en Gambie pour une visite officielle de 2 jours. Il va prendre part à la première session du conseil présidentiel sénégalo-gambien. Il y a 1 an, le chef d'État gambien, Adama Barrow, faisait le déplacement à Dakar. Ce conseil a pour but de renforcer leur coopération. Au Cameroun, un gendarme a été tué à Batibo, une commune de la région du Nord-Ouest anglophone, par des personnes non identifiées. Jeudi 8 mars, le ministre de l'Intérieur avait déjà pris des mesures restreignant la circulation des véhicules afin d'éviter de nouvelles attaques meurtrières des sécessionnistes dans la région. En Éthiopie, des habitants d'une ville du sud du pays dans la région Oromo ont contesté la version donnée par le gouvernement de la mort de 9 civils tués par des soldats par erreur. Le gouvernement avait reconnu l'erreur en justifiant qu'ils avaient été pris pour des terroristes, alors que les résidents ont expliqué que la fusillade s'était produite dans un quartier réputé pour son opposition au gouvernement éthiopien. L'île Maurice fête ses 50 ans d'indépendance ce lundi 12 mars, alors que sa présidente est poussée à la démission. Le pouvoir était depuis environ 3 ans aux mains de la seule femme chef d'État d'Afrique, Amina Gourib Fakim. Mais cette dernière est accusée de détournement de deniers publics et sa démission, désormais acquise, interviendra après cette fête de l'indépendance. C'est le vice-président Barlène Viapori qui assure l'intérim dans l'attente de la nomination d'un nouveau président.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'administration Trump dévoile une série de mesures pour tenter de venir à bout des fusillades dans les écoles. Ces propositions qui interviennent près d'un mois après la tuerie survenue dans un lycée de Floride qui avait fait 17 morts. Le point avec Idriss Fall.
L'administration Trump va proposer son aide aux États qui souhaiteraient former certains enseignants ou employés d'école au maniement des armes malgré l'opposition de plusieurs syndicats d'enseignants. L'idée d'introduire des armes dans les écoles pour faire face à d'éventuels tueurs fait partie d'un plan pragmatique pour améliorer considérablement la sécurité dans les écoles, a souligné la ministre de l'Éducation, Betsy DeVos. Dans une conférence téléphonique avec des reporters hier soir, Andrew Bremberg, un conseiller du président, a déclaré que le gouvernement fédéral encourage les États à adopter, à l'instar de la Floride, des décrets temporaires de prévention des risques qui permettraient à la police de retirer leurs armes à des personnes considérées comme menaçantes. Cependant, ces mesures n'incluent pas la révision de l'âge minimum pour acheter une arme à feu. Mais pour le chef de l'opposition démocrate au Sénat, Chuck Schumer, ces mesures ne sont que de petits pas pour ne pas contrarier la NRA, le lobby des armes à feu.
En Syrie, des centaines de civils fuient la ville d'Afrin face à l'avancée des forces turques. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près de 2000 civils ont déjà rejoint la localité voisine de Nobol, tandis que des centaines tentent encore de quitter la ville. Les forces turques sont positionnées autour de la ville et contrôlent désormais 60% de l'enclave d'Afrin à majorité kurde. Nikki Haley aujourd'hui a parlé du cessez-le-feu immédiat en Syrie. Elle dénonce l'attitude de Moscou et Damas, qui n'ont jamais eu l'intention d'appliquer une trêve. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est l'heure de la Minute Éco, présentée ce soir par Blanche Sanou.
Au Burkina Faso, l'entrepreneuriat féminin bénéficie de plus de 4 milliards de francs CFA pour les énergies durables. Mis en place par l'ONG Christian Haid, c'est un projet qui va augmenter les emplois et revenus des femmes. Un fonds qui permettra aussi d'améliorer les conditions de travail et de vie et le bien-être des femmes en leur facilitant l'accès aux technologies. Le projet de 3 ans de 2018 à 2021 intervient dans 3 autres pays du monde, à savoir l'Éthiopie, le Honduras et le Malawi. Au Cameroun, la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit a engrangé plus de 10 milliards de francs CFA de bénéfices. Dans un communiqué, les responsables de la banque expliquent que ce bénéfice a été obtenu grâce à une politique bancaire efficace, modernisée et au dynamisme de son personnel. En Côte d'Ivoire, le conseil du café cacao a annoncé une suspension temporaire des opérations d'amélioration de la production de cacao à compter de la campagne 2018-2019. Ces activités englobent notamment la distribution de matériel végétal amélioré, de semences à haut rendement et des boutures. Ce plan devrait permettre d'une part de soulager le système croissant de la production, mais aussi c'est une mesure d'adaptation pour faire face à l'effondrement des coûts mondiaux depuis la saison 2016-2017.
Et c'est la musique d'ambiance de la page sport. Bonsoir Eric Manirakiza.
Bonsoir Aïssa.
Football en Afrique, le trophée mondial de la FIFA exposé au Grand Théâtre de Dakar.
Les amateurs du ballon rond se sont déplacés nombreux pour contempler ce trophée Raissa. Une occasion très rare qui a rappelé à certains nostalgiques de la Coupe du Monde de 2002. Le Sénégal avait atteint les quarts de finale pour sa première participation et 16 ans après, les Lions sont de nouveau au rendez-vous au mondial du football. Vont-ils rééditer l'exploit? Wait and see, comme disent les Anglais. Et après Dakar, la Coupe du Monde continue sa route vers Abidjan.
Et les Lions de la Teranga vont livrer des matchs amicaux, n'est-ce pas?
Le 23 mars contre l'Ouzbékistan au Maroc et le 27 contre la Bosnie-Herzégovine en France. Le sélectionneur Aliou Cissé, capitaine de l'équipe en 2002, a convoqué 30 joueurs pour ses deux premiers matchs de préparation. Après un rassemblement au Sénégal en mai, la sélection effectuera son principal stage dans la station thermale française de Vittel. Avant de rencontrer le Luxembourg, la Croatie et une cinquième nation encore à déterminer, Aïssa.
Les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions, Manchester United et Roma attendus au tournant.
Ils doivent surmonter des résultats en demi-teinte à l'aller pour faire valoir leur statut de favori. Rendez-vous demain à domicile, respectivement contre Séville et Shakhtar Donetsk. Le club anglais n'a plus atteint les quarts de Champions League depuis 2013-2014. Pour l'AS Rome, la tâche est un peu plus ardue. Elle doit renverser la vapeur après un revers de 1 en Ukraine. Mercredi, le Bayern devrait valider sans problème son billet, tandis que le Barça accueillera Chelsea après un nul, un but partout en Angleterre.
Et on termine avec la NBA. Quelques résultats de ce dimanche et les classements.
Boston s'est incliné devant Indiana. Brooklyn a perdu face à Philadelphie. Dallas a battu Houston. La Lakers a largement vaincu Cleveland. Atlanta n'a pas tenu devant Chicago. Score fleuve de Denver contre Sacramento. Échec de la Nouvelle-Orléans contre Utah. Minnesota a eu le dernier mot face à Golden State. Toronto a donné une leçon à New York. Et dans les classements pour terminer, Aïssa, Toronto et Boston sont déjà qualifiés pour les playoffs au niveau de la conférence Est, et à l'Ouest, seul Houston a franchi le cap.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est arrivé à Abuja, dernière étape de sa tournée africaine, principalement axée sur la sécurité, la coopération, les investissements et les conflits. Le chef de la diplomatie américaine était en provenance de N'Djamena, où il a rencontré le président Idriss Déby. Le point avec André Komadjingar.
Arrivé ce lundi matin à N'Djamena, le secrétaire d'État américain a été reçu pendant plus d'une heure par le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno. L'occasion pour le président Déby de lui réitérer son incompréhension au sujet de l'inscription du Tchad sur la liste des pays dont les ressortissants sont interdits des visas d'entrée sur le territoire américain. Audience à l'issue de laquelle une conférence de presse conjointe a été co-animée par Rex Tillerson et le ministre tchadien des Affaires étrangères. Pour Mohamed Zen Chérif, le Tchad doit être retiré de la liste noire de l'administration Trump.
L'inscription du Tchad sur cette liste est une injustice faite au Tchad, surtout par rapport à son engagement et à son effort dans la lutte contre le terrorisme. Nos services de sécurité ont travaillé ensemble pendant longtemps et toutes les conditions sont réunies pour que le Tchad soit retiré de cette liste.
Cette visite qui, selon les autorités tchadiennes, témoigne de l'importance de partenariats stratégiques entre les deux États, entraînera-t-elle la levée immédiate de cette mesure? Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson répond.
Des agents du ministère de la Sécurité du département d'État ont visité le Tchad à la fin de l'année dernière. Ils ont eu de très bons échanges avec les autorités tchadiennes. Beaucoup de pas importants ont été franchis par le gouvernement du Tchad pour renforcer le contrôle sur ses passeports, renforcer le partage d'informations sur des personnes suspectes ou qui peuvent être potentiellement des terroristes. Ces progrès vont nous permettre de mener des actions pour normaliser les relations avec le Tchad. Il y aura un rapport d'ici la fin du mois et qui sera revu par le président en avril. Et nous espérons que nous allons retourner à la normalisation concernant les voyages.
Se félicitant de la contribution des États-Unis d'Amérique au financement de la force conjointe du G5 Sahel pour la lutte contre le terrorisme à hauteur de 60 millions de dollars, le président Déby plaide pour qu'une solution urgente soit trouvée en Libye. Mohamed Zen Chérif est le ministre tchadien des Affaires étrangères.
Le chef de l'État a insisté sur l'urgence de trouver une solution politique à la crise libyenne et a exprimé sa vive préoccupation par rapport à la transformation de la Libye en un repère des djihadistes de tous les horizons. Il convient de rappeler à cet égard que les armes de tout calibre en circulation au Sahel proviennent essentiellement de la Libye.
André Kodmadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
Anastasie Fidiesh,
John Linden.
Tous les jours, nous vous donnons rendez-vous dans Le Monde Aujourd'hui, le journal de VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, c'est l'information sur toute l'Afrique.
Et le reste du monde, et la primeur sur l'actualité américaine.
Le Monde Aujourd'hui, c'est aussi du sport, de l'économie, de la culture.
Des nouvelles technologies et des personnalités inspirantes de la diaspora.
L'actualité, c'est essentiel.
Retrouvez-nous tous les jours, du lundi au vendredi, dans Le Monde Aujourd'hui.
Sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
En République démocratique du Congo, les formations politiques s'organisent en vue des élections prévues le 23 décembre 2018. Les partis politiques ont jusqu'à la fin du mois pour déposer le nom des éventuelles plateformes politiques qui vont se présenter à ces scrutins. À ce jour, qui sont les candidats à la présidence? Morgane Guerriec a posé la question à Thierry Kombundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La liste n'est pas encore assez exhaustive parce que la Commission électorale nationale indépendante n'a pas encore lancé le processus de dépôt des dossiers de candidature. Mais il y a déjà des personnalités qui se sont prononcées même bien avant la publication de l'actuel calendrier électoral. Le cas de Moïse Katumbi-Chapwe qui vient d'ailleurs en Afrique du Sud de lancer son mouvement en vue des élections dénommé Ensemble. Toujours au sein du rassemblement de l'opposition, il y a également Martin Fayulu qui au nom de l'SID son parti politique s'était déjà prononcé depuis l'année dernière comme candidat. L'actuel Premier ministre Bruno Tshibala a été porté par sa frange de l'UDPS comme président de ce parti politique, mais ne s'est pas encore prononcé quant aux prochaines élections, même s'il a déjà lancé une plateforme électorale. On a beaucoup parlé de l'UDPS et de Félix Tshisekedi. On attend encore le Congrès qui devra désigner le remplacement de feu Étienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi a annoncé sa candidature comme successeur de Félix Tshisekedi, son père, à la tête de l'UDPS. Mais de là à l'annoncer candidat à la présidentielle, il y a un pas qui n'a pas encore été franchi.
Qu'en est-il du président sortant?
À la majorité présidentielle également, le flou plane quant au dauphin du président Kabila. Le comité laïque de coordination a depuis l'année dernière lancé des marches pour appeler le président Kabila à se prononcer officiellement, à dire clairement qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle, ce qu'il n'a pas encore fait. La fois dernière, il a renvoyé les gens à la Constitution comme pour dire que c'est la loi des lois de la République démocratique du Congo qui avait scellé son sort. Mais le président Kabila n'a pas encore dit clairement qu'il ne serait pas candidat. Et la majorité présidentielle nous demande d'attendre l'organisation de ces prochaines assises pour annoncer ses candidats à tous les niveaux des prochaines élections. Car la majorité présidentielle a dit qu'elle veut gagner à tous les niveaux. Donc certainement, dans les semaines, dans les mois qui viendront, on en saura un peu plus.
On a déjà eu plusieurs reports de ces élections. Est-ce que cette fois-ci, le pays sera prêt?
En tout cas, la machine électorale est en marche. La CENI est en train, avec les différents partis et plateformes politiques, de sensibiliser quant à l'utilisation de la fameuse machine électorale qui sera l'innovation des prochains scrutins. Pour la CENI, les élections auront lieu le 23 décembre 2018.
C'était Thierry Kombundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le PDCI veut présenter son propre candidat pour la présidentielle de 2020. Le porte-parole Jean-Louis Billon l'a déclaré samedi à Yamoussoukro devant plusieurs milliers de militants. C'était en marge d'une cérémonie en l'honneur du président Henri Konan Bédier. Néanmoins, le parti présidentiel, le RDR, souhaite fusionner avec son allié de la coalition d'ici la fin de l'année. Alors, est-ce la fin du rassemblement des oufouettistes? Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Abidjan l'un des leaders de la société civile ivoirienne, le docteur Christophe Kwame.
On ne sait pas si c'est la fin. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le PDCI demande à son allié du RDR, membre du RHDP, de lui retourner l'ascenseur pour 2020. Juste pour rappel, tout le monde sait officiellement que le PDCI s'était allié au RDR pour 2015 et de ce que nous savons de l'extérieur, pour 2020, ce serait un candidat issu du PDCI.
Avez-vous été surpris de ce changement de cap?
Alors, Bédier, surnommé le 5 de Daoukro, qui avait lancé l'appel de Daoukro il y a de cela quelques années, est en train de se donner tous les moyens pour pouvoir être au pouvoir, lui ou quelqu'un de son parti. Et à cela, nous avons assisté depuis le début de l'année 2017 et depuis 2016 d'ailleurs, un certain nombre de rencontres. Bédier a rencontré le président de l'Assemblée nationale, Soro. Bédier a reçu à Fingessan, président du FPI de l'opposition, Gbagbo. Et nous apprenons même à travers les journaux que Bédier est en train d'envoyer Jean-Luc Billon, nouveau porte-parole du PDCI, à La Haye pour rencontrer le président Gbagbo. En tout état de cause, nous regardons et nous sentons que la stratégie mise en place du président Bédier, hein, c'est une stratégie pour conquérir le pouvoir d'État pour 2020.
Mais Bédier, il a plus de 80 ans.
Pour ceux qui ne le savent pas, depuis 2016, la nouvelle constitution a enlevé la clé de l'âge par rapport à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous pouvez avoir 99 ans, 100 ans, et vous pouvez être candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire.
S'agit-il d'une véritable transformation politique en Côte d'Ivoire?
Oui, déjà, vous savez que les organisations de la société civile font énormément de sensibilisation envers les citoyens pour que ceux-là connaissent leurs droits et devoirs. Mais en même temps, vous observez que les politiciens qui ont commencé depuis les années 60, une deuxième génération de politiciens qui, je dirais, en gris, en dents longues, commence à pousser les cartes et il y a une réorganisation qui est en train de se mettre en place. Dans tous les partis politiques, d'ailleurs, ce phénomène s'observe, des nouvelles personnalités apparaissent. Et d'ailleurs, les dernières législatives nous ont montré qu'il y avait presque 700 indépendants, souvent même issus des partis traditionnels. Donc, nous observons une réorganisation, effectivement, du paysage politique ivoirien avec beaucoup de nouveaux venus qui veulent se faire entendre. De faire entendre leur voix.
C'était Christophe Kouamé, joint à Abidjan.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le premier sommet de l'Alliance solaire internationale, une initiative conjointe entre Paris et New Delhi lors de la COP21 a vu le jour. Les énergies renouvelables sont plus que jamais au cœur des enjeux énergétiques mondiaux. En Afrique, l'utilisation de l'énergie solaire passe par la maîtrise de son accumulation. Pour plus de détails, Azuma Compaoré a joint Iboudou William, spécialiste en énergie renouvelable.
Ben, le solaire est en train de faire son chemin en Afrique et je pense que ça marche assez bien. Je me rappelle en 2000, quand j'étais revenu des études, quand on allait dans les villages, on voyait aucun panneau photovoltaïque. Actuellement, il y en a plein partout. Mais ça ne marche pas de façon optimale. Tout simplement parce que les gens sont focalisés sur la production de l'énergie, mais il y a beaucoup d'autres éléments autour de la production de l'énergie. Par exemple, le stockage, par exemple, tous ces accessoires qui nous aident à réguler cette production d'énergie, il faut les maîtriser.
Quelle est la place de l'Afrique dans cette conquête du solaire?
Déjà, l'Afrique doit savoir ce dont elle a besoin. Parce que l'Afrique doit travailler pour elle-même aujourd'hui. L'énergie, c'est un outil de développement. Quand vous faites la transformation agroalimentaire, vous avez énormément de résidus. Et aujourd'hui, personne ne parle de ça. On peut utiliser ces résidus pour produire une partie des énergies dont on a besoin et compléter avec le solaire. C'est pour cela que je dis toujours, il est nécessaire de savoir ce qu'on veut faire avec l'énergie. Car c'est un outil. Même si on va vers l'énergie solaire, on dira plus tard que c'est extrêmement cher et que ça ne tient pas longtemps. Mais si on décide de stocker l'énergie sous forme de froid, sous forme de glace, dans des réservoirs isolés qui ne s'abîment presque jamais, alors on aura résolu un gros problème.
Quel est l'avenir finalement de l'énergie solaire, surtout pour l'Afrique qui est très riche en énergie solaire?
Je peux vous dire dès maintenant que l'un des plus grands problèmes de l'énergie solaire sera le stockage de l'énergie. Le stockage, ce n'est pas seulement le stockage en tant que tel, mais l'intelligence dans l'utilisation de l'énergie dans le temps. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas, en fait, les énergies renouvelables. Le soleil brille quand il veut. Et parfois, il n'est pas en concordance avec les besoins. Donc, on doit travailler dans nos universités à pouvoir mettre l'énergie à la disposition des gens au moment où ils ont besoin et là où ils ont besoin. Ça, c'est un gros travail qu'il y a à faire, c'est le défi que l'Afrique, mais aussi le monde, doit relever pour pouvoir vraiment utiliser correctement toute cette énergie renouvelable.
Ilboudo William, spécialiste en énergie renouvelable. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Joël Mourissin, la console Wojtek Zorniak, Raissa Girondin, la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.